Donc c'est un travail de doctorat donc qui a été achevé, présenté récemment, juillet dernier, par Hossein. J'aurais bien aimé que ce soit lui qui fasse la présentation de sa thèse. Bref, on a été un peu à l'origine de son travail et puis il a été encadré par des collègues, Mejid, Emmanuel Néron et puis moi-même. Et Hossein, il est actuellement en postdoc avec nous dans le truc 2. Donc le but c'était un peu de réutiliser un peu de réadapter un petit peu les modèles que développés dans ce projet de recherche là pour Truc 2 pour développer un pseudo modèle à quatre étapes à l'échelle de la région centre. Vaste chantier. Bien. Alors il s'agit ici de mettre en place une démarche avec plusieurs modèle complémentaire. Donc c'est une approche constituée de modèles qui vont être reliés entre eux pour essayer d'atteindre un petit peu cet objectif qui est de développer un plan d'évacuation de la population face au risque d'inondation. Bien deux terrains d'études sur lesquels on avait travaillé, le Val de Tours et celui de Gien. Donc les deux sont sur la région centre. Ça a été financé par donc l'EPL, l'établissement public Loire et le fonds fédéral. Donc il faut travailler sur le bassin de la Loire. Donc il y a un potentiel d'application sur d'autres sites, bien évidemment, qui sont concernés par le risque d'inondation. Alors, tout simplement, sur le Val de Tours, comme vous le savez déjà, c'est un val qui est protégé par un système de digues. Un des systèmes de digues le plus important en France, donc un système de digues très important hein, qui protège donc le site Tourangeau, le Val de Luynes et le Val de Tours. Du coup, on est obligé de travailler en préventif, c'est-à-dire que l'évacuation doit nécessairement avoir lieu les quelques jours avant l'inondation. Si jamais il y a une rupture de digue, bah le site, l'ensemble des valves va être inondé d'une manière très très rapide et très très brutale. Et donc, l'évacuation serait très, très compliquée à mettre en œuvre. Et le site du Val de Gien, il est protégé, mais partiellement par des digues. Donc, il peut faire l'objet d'inondations par débordement. Donc, d'inondations lentes par débordement. Donc, on peut essayer de faire de l'interaction à ce moment-là entre les aléas d'inondation, entre les scénarios d'aléas et le réseau routier. Et donc, déterminer des zones où le réseau n'est plus praticable et donc calculer des itinéraires de délestage et déterminer le temps total d'évacuation. Bien, donc le site de Tours, donc très rapidement, qu'est-ce que c'est? On a travaillé sur les quatre principales communes, la Ville-aux-Dames, Saint-Pierre-des-Corps, Tours et La Riche. Et donc vous voyez en fait tout simplement ce que je voudrais vous indiquer, les traits bleus. Ce sont le système de digues. Et en rouge, si je prends les digues qui sont situées au nord, donc ce qui est en rouge plein et en rouge assuré, ce sont des zones que les acteurs locaux, aussi bien la DREAL que la DDT, ils nomment des fosses d'érosion, des zones létales, des zones de destruction massive. Bref, c'est des termes un peu lourds pour dire effectivement l'impact. Si jamais il y a une rupture de digue, donc les symboles en rouge, ça vous indique en fait les ruptures historiques. Donc si jamais il y a une rupture de digue, effectivement, c'est catastrophique pour l'ensemble du site. D'où l'intérêt en fait de l'évacuation préventive. Donc ça permet de justifier le type d'évacuation. Et de ne pas faire croire surtout aux acteurs locaux, aux élus, aux politiques, surtout qu'on peut évacuer pendant l'inondation. Et donc il faudrait faire le maximum avant. Alors c'est un site très vulnérable, bien évidemment, pour la raison que je viens d'expliquer, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont situés en zone inondable. Donc ce sont des ordres de grandeur, ce sont des estimations. 100% des territoires de la Ville-aux-Dames, Saint-Pierre-des-Corps, La Riche est inondable, et puis vous voyez que 72% du territoire Tourangeau, de Tours qui est affecté. Et donc environ plus de 130 000 personnes qu'il faudrait évacuer en cas de crise majeure. Excusez-moi. Voilà. Bien, et donc le deuxième site, de la même manière, donc c'est aussi un site vulnérable, et vous voyez, donc on a estimé la population, le territoire concerné, et donc vous avez en fait des ordres de grandeur qui justifient de travailler sur ce site-là. Bien, donc, très rapidement, je vais essayer de vous parler donc des aspects un peu théoriques sur la modélisation des problèmes d'évacuation, les méthodes de résolution qu'il y a derrière. Tout en restant, en faisant le lien avec la question de l'interaction spatiale, et donc quelques résultats sur les deux sites d'études. Alors, plan d'évacuation, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit donc de fixer pour chaque personne, pour chaque individu, pour chaque véhicule qui doit être évacué, sa date de départ, à partir de quel moment il doit évacuer le site, et le chemin qu'il doit emprunter. Le but, au final, c'est de calculer, c'est d'estimer, de calculer un plan d'évacuation, et c'est possible, un plan d'évacuation dont la durée totale doit être minimale, sans congestion, bien évidemment. Donc avec le minimum de couacs, en tout cas, possible. Donc les objectifs et les contraintes, une liste non exhaustive, selon les recommandations. Alors, il faudrait maximiser les flots, donc le nombre de véhicules qu'on va envoyer, donc les débits, maximiser les flots des bâtiments selon une liste de priorités d'évacuation. Donc, on va établir une liste de priorités, notamment avec les acteurs locaux, pour savoir quelles sont les zones sur lesquelles il faudrait prioriser et qu'il faudrait évacuer en premier. Donc là, c'est une question de transport. Il faudrait minimiser, donc pour minimiser le temps total d'évacuation, on va minimiser le nombre de créneaux d'évacuation de chaque bâtiment. Alors la notion de créneau, c'est quoi? C'est qu'au lieu de raisonner en heures-minutes, on raisonne en heures-minutes pour calculer le plan d'évacuation, mais en termes de communication, en fait, on traduit ça en créneau. Tout simplement parce que les acteurs ils sont très friands, ils veulent savoir le temps total d'évacuation, c'est combien, et donc si on leur dit que évacuer Tours, par exemple, en une journée, c'est possible, ben ils vont dire que tout va bien, bingo, on peut évacuer 130. Donc là, c'est pour ça qu'on préfère raisonner en créneau pour éviter en fait cette polémique-là. Alors, il faut aussi une contrainte de succession des créneaux d'évacuation des bâtiments. Alors, les bâtiments appartenant à la même zone, au même quartier, au même hérisse, ça dépend donc des zones à définir avec les acteurs, ces bâtiments-là doivent être évacués dans un minimum de créneaux et de manière consécutive, hein. On ne va pas commencer l'évacuation le matin et la finir 2 jours plus tard. Il faudrait respecter donc les chemins d'évacuation prédéterminés. Donc là, il y a un problème de communication vers la population. Bien évidemment, respecter la capacité des points sûrs, c'est-à-dire les zones de rassemblement et d'orientation vers lesquelles on va envoyer la population, les zones qui vont recevoir donc la population qui va être déplacée. Minimiser, on a dit, ça c'est la définition, les dates de départ d'évacuation pour chaque véhicule. Et puis il y a une question d'écoulement de trafic. Sans interruption. Donc, on ne va pas attendre que le premier véhicule qui a été envoyé arrive à destination pour envoyer le deuxième véhicule. Donc, il faudrait faire attention à la congestion, mais on va quand même envoyer les véhicules en maximisant les capacités des tronçons routiers. Donc, la conséquence, c'est la réalisation d'un plan d'évacuation en termes d'ordonnancement. Juste pour préciser qu'actuellement, au niveau du plan communal de sauvegarde de la ville de Tours, il y a un plan d'évacuation à 5, je ne sais plus, et c'est fait à la main en fait l'évacuation. Donc c'est écrit, vraiment les itinéraires sont indiqués vraiment à la main. Bon, en résumant donc le modèle spatio-temporel optimization model qui a été développé, donc en haut à gauche, c'est la construction de l'ensemble des bases de données qui sont nécessaires. Donc les bâtiments évacués, le réseau de transport, topologique encore une fois, les aléas. Quand cela a été possible, de prendre en compte les aléas. Ensuite, il y a eu une phase de regroupement des bâtiments. Alors, on a travaillé à l'échelle mésoscopique, non pas microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de chaque individu, mais à l'échelle de groupe de bâtiments. En fait, chaque bâtiment devant être évacué, il a été affecté au nœud de réseau le plus proche. Et donc, les bâtiments ont été affectés au nœud de réseau le plus proche, et ce sont des nœuds de réseau qui vont être évacués. Donc là, c'est une phase de regroupement de bâtiments, c'est pour simplifier en fait le problème. Reconfiguration de réseau, ça veut dire quoi? Tout simplement, certains tronçons routiers peuvent être réservés aux forces de secours. Certains sens peuvent être changés pour optimiser l'évacuation, pour rendre cette évacuation plus rapide. Donc il y a cette phase de reconfiguration de réseau. Et puis, phase d'association des bâtiments au point sûr. Est-ce que le bâtiment doit être évacué vers le nord ou vers le sud? Vers quelle zone de regroupement et d'orientation? Alors, première étape de calcul proprement dite, c'est le calcul des itinéraires minimaux, donc la matrice origine-destination des itinéraires minimaux entre les nœuds du réseau à évacuer vers les points sûrs. Et la deuxième étape, en bas à gauche, donc il y a le système d'ordonnancement de l'évacuation, donc les priorités d'évacuation, qui va être servir d'input pour le modèle de poursuite de véhicules, donc l'envoi des véhicules les uns derrière les autres, dans un but donc de simuler un plan d'évacuation et de après il y a une phase d'édition et de cartographie de ce plan-là. Donc je ne vais pas développer toutes ces étapes-là, mais alors la première étape, c'est l'estimation de la population en fait concernée par l'aléa. Le découpage aléa n'a rien à voir avec le découpage administratif des communes. Donc il faut estimer il y a combien de personnes il faudrait prendre en charge, même si l'évacuation du site de Tours se fera en dehors de l'aléa. Il faudrait quand même qu'on estime quelles sont les populations qui potentiellement peuvent être affectées. Ce qui veut dire, on connaît la population à l'échelle communale. On connaît la population même à l'échelle des hérisses. Donc, pour résumer cette diapositive, je vais tout simplement, la population qui est agrégée à l'échelle des hérisses, selon un procédé, selon le nombre d'étages, la superficie totale de chaque bâtiment, je vais la ventiler par bâtiment. Donc, je vais la désagréger. La population à l'échelle des zones des hérisses, ou à l'échelle des communes, je vais la désagréger et la répartir sur les bâtiments de cette zone-là, de l'hérisse ou de la commune concernée. Une fois j'ai répartir la population dans les bâtiments, selon une règle, celle des surfaces développées, je vais pouvoir ensuite agréger la population des bâtiments situés en zone inondable. Donc, je vais pouvoir estimer la population qui est concernée par l'aléa. Ce sont des estimations. Il faut bien avoir des données pour travailler. Bien, donc, sur la base de cette démarche-là, on estime la population, par exemple, sur le site de Gien, qu'il faudrait évacuer. Donc, il y en a à peu près 1774 individus qu'il faudrait évacuer, qui sont situés au nord, et puis 1500. Bon, voilà, ce sont des estimations. Donc, environ 3340 personnes à évacuer, ce qui représente à peu près 15% de la population. Sur le site de Tours, on a une estimation de l'ordre de 130 000 habitants, de 130 000 personnes. Seconde étape, c'est l'affectation des bâtiments évacués aux nœuds du réseau les plus proches. Je prendrai un exemple qu'on voit assez bien. Donc, tous ces bâtiments-là, ils ont la même couleur, vont être affectés aux nœuds du réseau. On ne voit pas super bien. On va être affectés aux nœuds du réseau les plus proches. Donc, toute la population de ces bâtiments qu'il faudrait évacuer sera affectée à ce nœud-là. Donc, il y a un facteur de simplification, notamment au niveau du calcul des itinéraires minimaux. Donc, il y aura une perte, si vous voulez, de distance qui ne sera pas parcourue par les véhicules depuis les bâtiments jusqu'au nœud du réseau en question. Mais cette perte, donc, sera homogénéisée sur l'ensemble du site. Phase suivante, c'est d'affecter ces bâtiments-là. Donc, les points que vous avez sur le territoire sont des points qui sont situés en zone inondable. Donc, c'est les nœuds du réseau, effectivement, que nous allons évacuer. Et donc, on va affecter ces nœuds-là vers les zones, vers les adéraux de regroupement et d'orientation, selon un critère de proximité d'une part, et selon un second critère de capacité de ces zones-là. Ça, c'est une première répartition. Et après, on peut aller relativement loin sur les priorités d'évacuation. Alors, on va servir de ce que j'ai expliqué au départ, à savoir des zones létales. Les acteurs veulent absolument évacuer la population qui est située tout d'abord, dans un premier temps, située tout de suite derrière les digues. Et donc, effectivement, cette zone létale, on va la déterminer, et on va déterminer les bâtiments qui sont à l'intérieur de cette zone létale. Donc, on obtient ces trois classes. de part et d'autre, vous les voyez, soit qui sont situés derrière les digues de la Loire ou alors derrière les digues du Cher, et vous avez une troisième classe qui est au milieu. Donc ça, c'est une première hiérarchisation en trois classes, tout simplement. Maintenant, à l'intérieur de chaque classe, comment ordonner, c'est ça la question, c'est comment ordonner l'évacuation. On commence par quel bâtiment? À ce moment-là, on va pouvoir regarder précisément les distances, si vous voulez, de chaque bâtiment vis-à-vis de l'aléa, vis-à-vis de la Loire. Et donc, on pourrait commencer par celui qui est le plus proche. Et donc, par proximité, on pourrait commencer par celui qui est le plus proche et donc qui serait le plus vulnérable. Donc, c'est une vulnérabilité géographique, on va dire. C'est une vulnérabilité en termes de proximité. Maintenant, effectivement, on peut focaliser aussi sur une vulnérabilité en termes d'individus, de personnes. Donc, effectivement, dans les bâtiments, il y a plus ou moins de monde, il y a plus ou moins de personnes âgées, etc. Donc, ce sont d'autres types de vulnérabilités qui peuvent être aussi, qui peuvent intervenir. Donc, ça, c'est sur le site de Tours. Maintenant, sur le site du GIEN, l'étape, qui se rajoute, c'est celle-là, c'est de pouvoir croiser des scénarios d'inondation. Nous avons obtenu des scénarios d'inondation de la Direction régionale de l'environnement, de l'Adréal Centre. En fait, ils ont un modèle d'inondation, c'est le modèle Hydra. Et donc, on a un scénario ici, dans le temps, depuis le début de l'inondation jusqu'à je ne sais plus combien, jusqu'à quelle heure. Et donc, il y a toute une démarche en fait de croisement en utilisant un modèle numérique de terrain très très précis, centimétrique. Bref, et donc on arrive à avoir en fait l'impact entre guillemets dynamique de l'aléa sur le réseau et donc à 100 h du début de la crue, on a à peu près 49 km de voies qui sont inondées et donc qui ne peuvent pas être utilisées pour le plan d'évacuation, etc., etc. Bien, la première étape de calcul, donc, c'est l'étape où il va falloir calculer les itinéraires minimaux entre les bâtiments, entre les groupes de bâtiments, entre les nœuds du réseau vers les zones sûres. Alors, deux algorithmes ont été utilisés, Camin et Catus. C'est des algorithmes de calcul de chemin minimum. Alors, qu'est-ce qui se passe très rapidement? On calcule un premier itinéraire entre une origine et une destination. Donc, distance-temps. Donc, on a l'ensemble des tronçons de cet itinéraire-là. Le second chemin, avant de le calculer, qu'est-ce qu'on va faire dans la méthode Camin? On va enlever le tronçon, l'arc le plus contraignant de la capacité minimale. Et on va recalculer un deuxième chemin, ainsi de suite. Donc, pour éviter en fait l'effet entonnoir entre deux chemins, entre des différents types d'itinéraires. Dans la deuxième méthode, qui est encore plus drastique que la précédente, on calcule le premier itinéraire le plus rapide entre un groupe de bâtiments et une zone sûre. Et on va, avant de calculer le deuxième chemin, on va mettre tous les tronçons routiers, tous les arcs de ce chemin-là, on va les mettre de côté. On va calculer un deuxième itinéraire qui va être complètement disjoint par rapport au précédent. Et donc tout ça pour essayer d'éviter en fait le mélange de flux en provenance de différents bâtiments. Donc, on a comparé les deux différentes méthodes, l'efficacité des deux différentes méthodes. On a opté pour la méthode Camin pour en fait pour tout simplement réduire le temps minimal, le temps total d'évacuation. On a opté pour Camin et on va considérer trois chemins minimaux. On va considérer une situation, une décision en fait de compromis, c'est une situation de compromis. Donc on a pris la méthode Camin avec trois itinéraires minimaux entre chaque point origine-destination. Ensuite, le modèle proprement dit de trafic utilisé, c'est le modèle de Greenshield. C'est un modèle très très connu. Greenshield 1900. Ça remonte à 1900 dans les années 40. Donc les deux modèles sont donc la vitesse en fonction de la densité d'un côté. Donc on travaille dans la zone verte, c'est-à-dire là où il n'y a pas de congestion. Et puis la relation du débit. Donc le débit c'est le nombre de véhicules par unité de temps. Donc le nombre de véhicules par unité de temps en fonction de la densité. Donc la densité c'est la concentration de véhicules sur une unité de distance, sur une unité de distance. Donc là, les bases en fait du modèle Greenshield. Et donc L'algorithme qui est utilisé, c'est un algorithme qui est très connu là aussi, c'est l'algorithme de Flowmax, Flow Maximum, qui va être donc injecté, qui va être injecté dans le réseau routier. Eh bien, Flowmax, l'optimisation du flow dans le réseau routier classique, c'est en haut. Qu'est-ce qu'on voit en haut, tout simplement? Donc, c'est l'évacuation des bâtiments. Donc, un rang, c'est un groupe, un groupe de bâtiments. Et vous avez les créneaux horaires d'évacuation et vous avez les bâtiments dans l'axe des abscisses. Donc, vous voyez qu'un groupe de bâtiments, une zone donnée, un quartier, il va être évacué en utilisant Flowmax classique, il va être évacué sur un ensemble de créneaux, du premier jusqu'au dixième, voire au quinzième créneau. Donc, les gens ne sont pas forcément évacués dans des créneaux consécutifs. On peut commencer l'évacuation aujourd'hui et la finir 2 jours plus tard. En gros, c'est ça. Alors, il faudrait absolument corriger donc ce problème-là. Effectivement, on est dans un système contraint. On n'a pas beaucoup de jours devant nous pour l'évacuation. Il faudrait évacuer en fait les personnes appartenant à une zone donnée, à un quartier donné, dans des créneaux consécutifs. Et du coup, il faut rajouter cette contrainte-là. On parle de Flowmax lexicographique. Donc, il y a un ordonnancement de l'évacuation des personnes qui appartiennent à une même zone. Et effectivement, vous voyez que en bleu, c'est l'ensemble des bâtiments appartenant à une même zone. Et donc, ils sont envoyés, ils sont évacués dans un minimum de créneaux consécutifs. Donc voilà, à gauche, c'est l'évacuation qui se fait vers la ZADER au nord. Et à droite, l'évacuation qui fait donc vers la zone de rassemblement et d'orientation sud, les zones qui ont été définies là aussi avec les acteurs locaux, notamment avec la préfecture. Le troisième donc modèle, donc les itinéraires minimaux, Flowmax, lexicographique. Et le troisième modèle, c'est le modèle de poursuite de véhicules. Il faut pouvoir envoyer les véhicules sans plus tarder, hein, sans attendre forcément que le premier véhicule arrive à destination. Et donc là, vous voyez que l'exploitation des trois itinéraires, donc on a utilisé trois itinéraires minimaux pour chaque origine destination, les bâtiments d'un côté, la date de départ donc au plus tôt, et le quatrième chemin, et c'est le premier chemin le plus exploité, bien évidemment. C'est le chemin le plus court. Donc vient ensuite le deuxième et enfin le troisième. Mais les deux, ils sont utilisés aussi. Bien. Application sur le premier site de Gien. Donc les rangs, ce sont les bâtiments. Le diamètre, c'est le nombre de personnes à évacuer par groupe de bâtiments. Et donc, vous avez les zones de part et d'autre, les zones sûres de part et d'autre, vers lesquelles il faut orienter la population. Donc, dans un premier temps, là, ici, on a considéré que 50% des gens, il faudrait les envoyer vers le nord et 50% vers le bas. Donc, la couleur de chaque bâtiment, donc ça vous donne, en fait, le sens. Son sens d'évacuation. Donc voilà, donc les itinéraires qui sont calculés, les itinéraires d'évacuation vers lesquels que la population devrait emprunter, et donc les adhérents qui se remplissent au fur et à mesure. Donc ça va très très vite. Le deuxième scénario, cette fois-ci, donc le premier, on l'a effectué sans coupure de route, donc en préventif. Le deuxième scénario, si jamais il y a une inondation et à la 125e heure de cette inondation, qu'est-ce qui se passe? Donc, à la 125e heure d'évacuation, il reste 160 bâtiments à évacuer et on a 167 bâtiments. On espère qu'ils ont déjà été évacués. Ils sont isolés par l'eau, mais peut-être qu'ils ont été déjà évacués. En tout cas, à ce moment-là, il reste 160 bâtiments hors d'eau. Donc, il faudrait évacuer en considérant bien évidemment la question de l'interaction entre l'inondation et l'eau. Et donc, en fonction de la population restante, il faudrait renvoyer 69% vers le haut et 31% vers le bas. Et donc, on voit, donc là, c'est un itinéraire de délestage hors inondation. Normalement, on aurait suivi un chemin, un itinéraire ici, là. Or là, c'est inondé, donc du coup, forcément, il faut aller chercher des itinéraires de délestage qui sont un petit peu plus lents, mais qui permettent quand même d'atteindre la zone sûre, qui permettent quand même d'évacuer cette population. Bien, alors sur Tours, j'y arrive. Alors, surtout, une petite animation. Je laisse regarder, puis après. Donc, les deux zones sur, vous en avez une au nord, une au sud. Je l'arrête. Alors, donc, Z0 nord, Z0 sud. Alors, le nord, c'est la base aérienne, entre nous. Z0 sud, c'est la zone Gramont. Et donc, là, les couleurs, ça vous indique les listes de priorité d'évacuation de ces bâtiments-là. Et puis, en haut à droite, vous avez l'ensemble des créneaux de cette évacuation-là. Il y a en fait la légende à gauche sur les couleurs associées au chaque groupe de bâtiments. Donc, le grand cercle jaune ici, c'est le CHU. Donc, c'est le nœud de réseau le plus proche du CHU et l'ensemble des bâtiments. Donc, ça fait un gros nœud. Bien. Donc, l'évacuation... Donc, va démarrer. Donc, la ville aux dames, la riche, la ville aux dames, Saint-Pierre, Tours et la riche. Et on voit l'intérêt et l'importance, en fait, des points de sortie, donc les ponts qui vont être utilisés pour évacuer le site. Et donc, la couleur finale obtenue, en fait, ça renvoie au créneau d'évacuation. Donc, au bout d'une heure... tel bâtiment a été évacué, 2 heures après, etc. etc. Voilà, donc le plan d'évacuation, au final, c'est quoi? C'est un bâtiment, son adresse, nombre de personnes, début de l'évacuation, fin de l'évacuation, l'itinéraire. C'est ça un plan d'évacuation calculé. Voilà. Bien. Bien, alors, une petite conclusion pour dire que c'est une... Même si on a fait un plan d'évacuation, c'est un début, c'est loin d'être abouti, puisqu'il y a pas mal de paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Alors, on considère que les gens vont respecter à la lettre, en fait, les consignes d'évacuation. Ça, c'est un big problème. Donc, effectivement, ça peut multiplier par 2, par 3, par 4, voilà. Donc, on n'est pas des robots, et donc la contrainte principale, c'est effectivement, c'est un problème de comportement des gens. Comment transmettre les consignes précises, et que les gens respectent les consignes. Récemment, il y a eu des inondations importantes dans le sud, il y a eu des difficultés monstres, tout simplement parce que les gens n'ont absolument pas respecté les consignes des préfectures qui disaient que il fallait surtout pas aller chercher ses enfants aux écoles. Et les gens, ils se sont retrouvés sur les routes, qu'ils étaient plus ou moins inondés, parce que tout simplement, ils ne respectent pas les consignes. Bien. Donc, la difficulté majeure, c'est la question des comportements des évacués, qui n'est pas considérée ici dans ce travail-là. Donc, ça reste un chemin très, un point important. C'est un outil, moi-même, je suis incapable de l'utiliser. Il y en a qu'un qui sait l'utiliser au jour d'aujourd'hui, c'est Hussein qui l'a développé. Il est dans son ordinateur. Donc, pour le moment, on n'a pas eu encore de travail de transfert proprement dit vers des utilisateurs potentiels. Ça demande beaucoup d'efforts. Hein. Donc, la visualisation qui a été réalisée, ça a été réalisé pour la thèse elle-même, pour la soutenance elle-même. Donc, je ne suis pas certain que cette visualisation soit suffisante pour un véritable transfert vers les acteurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et tout simplement, là, pour faire le lien aussi avec le travail de Gaëtan, donc on a un doctorant qui a pour but de communiquer un plan d'évacuation, qui est en fin de thèse, c'est Gaëtan Palca, qui travaille sur cette question plus précisément. Voilà, et donc récemment, il y a l'établissement public Loire aussi, donc qui participe au financement à travers la région et à travers l'Europe. Et donc il fait aussi des efforts, ce qui est vraiment très louable, et il publie des plaquettes, des projets de recherche en fait qu'il soutient. Et puis il les communique à l'ensemble des acteurs, notamment à l'échelle du bassin de la Loire. D'une manière accélérée, ce qu'on pouvait dire.